Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Rudy Aboab, donc on fait une petite sortie de route parce que là on est plutôt dans l'univers de la radio. Salut Rudy.
Salut Adrien.
Bah, pour commencer, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, Rudy ?
Bien sûr, avec plaisir, Adrien. Je suis Rudy Aboab. Je suis AFIP. Je suis un homme de radio. Je suis un homme de radio et de musique, ouais. À savoir qu'on le racontera tout à l'heure. Dans mon parcours, je viens de la radio, je viens de la musique, je viens d'une radio dont la spécificité était avant tout musicale, à savoir comment tu mets en onde et comment tu défends de la manière la plus large possible la musique. Et je suis aujourd'hui, depuis 4 mois, directeur de FIP, qui, pareil, est une radio dont l'ADN est avant tout et quasiment exclusivement musical et dont le rôle est de diffuser, jouer, mettre en lumière toutes les musiques possibles et imaginables à partir d'un seul critère qui est celui de la qualité.
Très bien, on va parler de ce critère-là. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé amoureux de la radio ? Où est-ce que tu es né ? Où est-ce que tu as grandi ? C'est ce genre de questions.
Super, c'est la séance de psy gratuite
exactement,
du matin. Non mais effectivement, alors bonne question et on peut repartir de, on va partir de là. Parce qu'on ne va pas remonter non plus à ma plus tendre enfance. Mais effectivement, si ta question est... quand commence le rapport à la radio, la réponse, elle est en tout cas limpide dans ma tête. Le rapport à la radio, il doit naître aux alentours de 12-13 ans, je pense, dans ma chambre d'ado, en banlieue parisienne. Où j'ai ma chaîne stéréo. T'as un lecteur CD, mais t'as surtout un double cassette. Et t'as évidemment un tuner radio, ce qui est aujourd'hui de plus en plus rare, puisqu'on peut écouter la radio de mille manières possibles et imaginables, à travers le téléphone, les chaînes stéréo, etc. etc. Donc à l'époque, ouais, t'écoutes la radio dans ta chambre avec ta chaîne stéréo, tu as ton double cassette, tu es banlieusard. Tu es à un moment, en tout cas je suis à un moment, on doit être dans les années 92-93, où le rap est en train de renaître, puisque c'est pas non plus la toute première génération, c'est plutôt la seconde, puisque le début du rap en France, on le situe plutôt aux alentours de 85, en tout cas avec ce moment historique qui est l'émission de Sydney sur TF1 l'après-midi. Moi, je suis trop petit pour m'en rappeler, mais je sais que je l'ai regardé, puisqu'on me raconte, ça. Puis que le rap disparaît, puis réapparaît 10 années plus tard, donc voilà, début 90, donc 92-93, je dois avoir 12-13 ans, un truc comme ça, en banlieue parisienne, à mi-distance de Paris, mais déjà un peu trop éloigné pour que tu ressentes et que tu vives ce qui se passe à Paris. Donc je vis en banlieue. Et donc le moyen en banlieue d'écouter du rap, de savoir ce qui se fait, de savoir ce qui sort, et ben c'est la radio. Il y a que ça à l'époque.
Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas tout ça encore.
Non, pas du tout.
On est très très loin de tout ça.
Alors, donc il y a la radio, Radio Nova,
ouais.
Qui diffuse beaucoup de rap, qui a beaucoup de shows de rap, notamment des shows de DJ James. Je ne me rappelle pas si Dynasty est encore là à l'époque, parce qu'il y a un retour de Dynasty à un moment sur Nova qui ne dure pas très longtemps. Donc Radio Nova, Fréquence Paris Pluriel, et d'autres trucs là dont je ne me rappelle pas, mais je sais que j'enregistre tout ce que j'entends sur des cassettes.
Okay.
Et comme à peu près tout le monde, on s'échange derrière les cassettes au collège. Mmh. Et à ce moment-là, je suis un fou furieux de rap et je suis à l'affût de tout ce qui sort, aussi bien en rap français qu'en rap américain. Et dès que ma mère d'ailleurs part aux États-Unis pour son boulot, qui n'a aucun rapport avec la musique, elle se fait tous les coins un peu chauds de New York, San Francisco, etc. En allant dans des boutiques, en me ramenant des mixtapes et des fringues.
Okay.
Et donc voilà, mon premier rapport à la radio, il est comme ça. C'est écouter la radio soit en cachette dans mon lit avec les écouteurs Walkman FM, soit enregistrer tout ce qui passe et s'échanger les cassettes avec les copains et les copines à l'école. Et puis voilà, la radio, moi, elle est née voilà, vers 12-13 ans et ça m'a jamais quitté, et notamment sur mon adolescence en banlieue jusqu'à mes 17-18 ans, jusqu'à que je découvre, on va dire, de manière un peu plus large Paris, parce que c'est ça, hein, une adolescence en banlieue. C'est naviguer entre les radios. Alors t'as effectivement un moment Skyrock qui arrive, qui pour des raisons non pas éditoriales mais de survie, puisque t'as l'arrivée des quotas français imposés par le CSA, qui Skyrock du jour au lendemain quasiment reste Skyrock, mais ne se met à jouer quasiment plus que du rap français. Donc pareil, on est très connecté entre Nova, Skyrock, la Libre Antenne aussi, puisque t'as 15-16 ans et que t'as, il est toujours à l'antenne d'ailleurs, t'as des émissions de Libre Antenne qui sont hyper importantes, surtout à cette époque-là où Internet n'est pas vraiment arrivé, ou en tout cas c'est encore un luxe d'avoir Internet chez soi.
C'est quoi la Libre Antenne ?
La Libre Antenne, c'est les émissions de Difool et compagnie. C'est vraiment des émissions de 2-3 heures où en fait c'est la France entière qui appelle, qui parle soit de ses problèmes, qui a des questions. Donc t'as à ce moment-là un Difool avec qui, je crois, avec le Doc, je crois, un truc comme ça. Et ça parle à la fois de culture, bon, ça va pas très très loin niveau culture, mais culture, musique et de sexualité et de social.
Bien sûr, ouais.
En fait, c'est des prémices, d'une certaine manière, c'est des prémices des réseaux sociaux, mais en direct à l'antenne. Et puis voilà, donc tu as des émissions extraordinaires sur Nova que j'écoute et que je ne comprends pas, parce que j'ai peut-être pas les codes, dont La Grosse Boule d'Edouard Baird et d'Ariel Wiesman. On ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est absolument fou. Et ça crée un univers, ça crée une culture, en tout cas, ça t'ouvre des portes derrière ta chaîne stéréo. Et d'autres petites radios pirates ou des radios tu vois, locales qui aussi diffusent beaucoup de rap français, beaucoup de rap américain. Et donc voilà, mon rapport à la radio, il est assez viscéral parce qu'il naît à ce moment-là, il naît à mon adolescence, et que généralement ce qui t'éveille à l'adolescence te quitte pas trop. Après, j'aurais pas pu imaginer que je fasse derrière ma carrière dans la radio, mais quand je regarde effectivement en arrière, je me dis, ouais, mais en fait, c'est peut-être né là.
Ouais, au fond de ton lit, à 23h.
Exactement.
En quoi c'est vraiment novateur, ce qui se passe à cette époque-là, et c'est inspiré de quoi d'ailleurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis ? Parce qu'avant, ça ressemble à quoi, la radio ? J'ai du mal à me rendre compte, je ne connais pas du tout l'histoire de la radio et ce qui fait qu'à l'époque, ça a été hyper novateur et disruptif.
Les radios, tu veux dire, d'une manière générale ?
Ouais, ces époques-là, quoi.
D'une liberté, une liberté de parole. T'as un grand tournant dans l'histoire de la radio. Je peux pas témoigner de la radio d'avant parce que je suis pas né. Et même le tournant dont je vais parler là, je l'ai pas vécu physiquement parce que je dois avoir un an ou deux ans, mais en 81, t'as l'élection de Mitterrand. Et très vite, dans les 100 premières décisions que prend Mitterrand quand il arrive, genre c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en France en 81, il y a la libéralisation de la
des radios, quoi. T'as beaucoup de radios pirates avant 81, donc
qui
en fait
diffuse à fond,
il ouvre la bande FM.
D'accord.
Il ouvre la bande FM, il ouvre le champ des possibles, et donc t'as des radios qui se créent. Et c'est comme ça que Radio Nova se crée. En 81, les deux premières radios libres et donc privées qui se créent sont Radio Nova et Énergie. Radio Nova est l'association de plusieurs radios pirates. Énergie, je connais pas très bien l'histoire. Voilà, donc t'as ces deux radios qui se créent, et puis après, t'as une profusion de radios qui arrive derrière. Et c'est novateur dans le sens où, si on prend l'exemple de Nova, qui est l'exemple que je connais le mieux et que je maîtrise le mieux, Nova, ça sort de l'idée, ça sort de la tête d'un mec absolument génial et fou, qui s'appelle Jean-François Bizot, qui est ce qu'on appelait déjà à l'époque, et ce qu'on peut continuer à appeler, il est mort il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, espèce de pape de l'underground français, de la contre-culture, qui Bizot, qui est issu d'une famille... plutôt fortuné, hérite d'un, voilà, d'une sorte de pactole, en tout cas qui lui est filé par son père en disant maintenant tu te débrouilles, t'en fais ce que tu veux, et qui va toute sa vie investir son argent totalement à perte, enfin pas constamment mais en grande partie à perte, dans la contre-culture, à travers d'abord la presse, avec un magazine qui d'abord est un fanzine actuel, qui ensuite devient un magazine de grands reporters absolument merveilleux, dont aujourd'hui l'enfant premier serait, on va dire, Society. Puis derrière, en 81, il lance Radio Nova, et Radio Nova passe par plusieurs époques musicales, puisque Radio Nova s'est fondée sur le principe de mettre en valeur, de faire émerger, de jouer... des musiques qui n'étaient pas jouées ailleurs. Donc Nova passe par plusieurs périodes musicales. La première, elle est plutôt froide, rock, new wave, mais mélangée aussi à ce qu'on appelle la sono mondiale, c'est-à-dire les musiques du monde. Et Nova bascule de manière assez naturelle par les gens qui l'habitent à cette époque-là, les gens qui passent dans ce lieu absolument fantastique qui sont les locaux de Nova au 33 rue du Faubourg Saint-Antoine, qui sont aujourd'hui les locaux de Clique, vit la période des 90, donc le rap. Et effectivement, Nova est reconnu aujourd'hui, 25 ans, 30 ans après, comme, en tout cas pour la radio... et pour un nombre de banlieusards comme le berceau du rap français. Et c'est ce qui a fait émerger le rap français. Ça a été la première, on va dire, j'aime pas le mot, mais c'est un mot qui correspond à l'époque, plateforme médiatique qui a ouvert ses portes au rap. Et ensuite, comme à chaque fois, dès qu'un style musical commence à être joué, ou en tout cas, commence à être joué par d'autres médias, Nova passait à autre chose.
D'accord. Et donc, ils ont eu le rap, le rock. Non, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, Nova, c'est un peu tout. New wave, sono mondial, rap, musique électronique. Et après, la grande époque de ce qu'on a appelé, nous, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Nova, le grand mix.
Ouais.
À savoir, Nova s'est construit sur toutes ses identités. Et ben, on va faire de Nova le grand mélange de tout ça.
Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contre-culture.
Ah ! Ah si, il y a la contre-culture.
Ah ouais ?
Ouais, je la maîtrise peut-être un peu moins, mais oui, il y a la contre-culture.
Toujours. Okay.
Effectivement, c'est une très bonne question. Où est la contre-culture aujourd'hui, à l'heure où tu peux tout trouver partout ?
Mais c'est, franchement, c'est une question qui est très liée à la mode.
C'est forcément lié à la mode, évidemment. La contre-culture, je pense qu'elle se trouve aujourd'hui encore. Et alors, elle se trouve partout. Elle se trouve à la fois dans les clubs, elle se trouve dans des fêtes cachées le week-end, elle se trouve sur des réseaux d'internet qui sont plutôt cachés du grand public, elle se trouve dans une manière d'être, elle se trouve dans une culture et une réflexion personnelle. Non, elle peut se trouver.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus forcément...
Donc voilà, la radio, c'est vraiment pour moi une expression de liberté immense. à la base.
Mmh. Juste pour clôturer sur la contre-culture, aujourd'hui, on la trouve... Ouais, il faut aller diguer pour aller la trouver. Il y a pas de,
comme
de
à l'époque.
Plateforme.
Comme à l'époque. Bah, Nova, il faut peut-être aller diguer encore plus, okay. Puisqu'aujourd'hui, tout est accessible.
Ouais.
Si on monte à 20, 30, 40 ans, où effectivement, Internet n'a pas... c'est même plus un rôle, quoi. Ça fait partie complètement de nos vies. Donc, tout est accessible et tout arrive à nous.
Mmh. Tout est poussé.
Donc, aujourd'hui, la contre-culture, effectivement, plus que jamais, elle est enfouie. Et c'est à toi d'aller la chercher, c'est à toi de te battre, si t'en as envie, hein, évidemment, ouais. Pour aller la trouver.
Okay.
Tandis qu'auparavant, elle pouvait peut-être se présenter à toi par, par tes connexions, par tes amis, etc., par ton environnement. Ouais.
Ok. Voilà. Donc, toi...
Mais j'espère qu'il y a toujours une contre-culture, mon Dieu.
Bah, j'espère bien aussi, mais bon... j'espère. Donc tu tombes amoureux de la radio, avec la radio libre, etc. T'es ado, t'es en banlieue parisienne. Mmh. Qu'est-ce qui t'amène c'est quoi la suite des événements? Tu te projettes dans des études ou tout de suite tu te dis bah, c'est ça que j'ai envie de faire, moi ça me font kiffer. Ouais.
Non, je me rends pas compte que j'ai un attrait pour la radio. La radio fait partie de ma vie.
Okay.
Mais je me rends peut-être pas compte, en tout cas à ce moment-là, du rôle qu'elle a. Ma passion c'est la musique, ma passion c'est le hip-hop. Je dis le hip-hop parce que je graffe un peu, j'essaie d'aller dès qu'il y a des concerts pas loin de chez moi, dans les MJC, des trucs comme ça, les soirées, j'essaie d'y être. J'ai un groupe de rap, donc j'essaie de rapper.
Ok. On peut voir des images là de ça?
Pas du tout, tout est caché. Il y a qu'une personne qui en a et à tout moment elle peut me faire chanter. Donc je suis complètement fou furieux de culture hip-hop. Donc le graphe, je danse pas mais je regarde ce qui se passe en danse. J'enregistre aussi ce qui se passe via la télé, YoMTV Rap,
okay.
Créé par une Française qui a beaucoup fait pour le milieu hip-hop, qui s'appelle Sophie Bramley. Donc on enregistre parce que YoMTV Rap pour le coup ne joue que des clips de rap américains. Donc là, pareil, tu récupères une esthétique sur laquelle tu hallucines un peu. Et donc tu essaies de trouver les fringues que tu vois dans les clips, dans les magasins on va pas appeler ça des magasins de mode, mais si, ils faisaient de la mode, en tout cas dans les magasins de hip-hop. À Châtelet-Léal, qui vendent à la fois des fringues, des bombes pour graffer et des mixtapes. Les mixtapes étant des cassettes de rap. Donc ouais, je suis hip-hop à 300%. Et je sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Voilà, j'en ai pas la moindre idée.
Comme beaucoup de jeunes.
Comme beaucoup de jeunes, à 18 ans, t'es pas forcément mature pour savoir ce que tu veux faire. J'ai la chance d'avoir des parents qui font attention à moi. Je suis issu d'un milieu pas aisé, mais d'un milieu où tout va bien,
ouais.
Avec des parents très attentifs. On me dit de faire des études et très sincèrement, je l'ai fait, sans trop me poser de questions. À l'exception d'eux, je vois que les études sont dans Paris et je me dis ça peut être cool en fait de sortir de cette banlieue où je m'amuse avec mes potes, mais au final ça tourne assez en rond, c'est gris, et où encore une fois tu sens que le champ des possibles il va pas très très loin et tu vois tout de suite en fait la manière dont sont orientés tes camarades qui viennent peut-être pas du même milieu social que toi, qui sont peut-être plus forts en cours que toi, mais qui sont renvoyés tout de suite vers, en tout cas à qui on propose des filières qui sont pas les filières qu'on devrait proposer à des élèves talentueux. Et à toi, on te laisse une possibilité d'évoluer plus large. Voilà. Une sorte d'inégalité assez frappante que tu vois tout de suite. Donc ça, j'en prends conscience. Effectivement, je me retrouve du jour au lendemain dans une prépa HEC, dans le 16e, là, dans une rue juste derrière. Ce qui m'a quand même bien fait marrer quand je suis arrivé à FIP le 3 janvier. En me disant, putain, c'est drôle la vie, parce que j'ai effectivement fait une prépa de rue derrière, rue Ranelagh, où je suis arrivé avec mes codes qui étaient littéralement à l'opposé de l'endroit où je me suis retrouvé. Mais si tu veux être banlieusard, après s'être armé pour le reste de ta vie, dans la manière de s'adapter, dans la manière d'être par rapport aux autres, c'est une des grandes forces de vivre en banlieue. Il n'y a vraiment pas que des choses négatives. Donc je me retrouve dans cette prépa dans le 16e. Je ne suis pas du tout armé en termes de capacité et d'envie de travail pour tenir dans cette prépa. Je m'en rends compte assez vite. Je fais quand même cette année.
Ouais. Tu ne t'es pas viré ?
Non, je me fais, alors pas du tout viré. Non, tu... Je me fais plein de potes qui en fait, m'ouvrent des endroits où je n'avais pas accès auparavant en tant que banlieusard. Donc des clubs, des soirées.
C'est quoi les soirées des gens du 16 ?
Franchement, je les suis et je me retrouve dans des endroits où j'hallucine totalement dans ce que je vois, sur ce que je vois.
Mais dans quel sens ?
Les moyens qu'ont les gamins et qui je traîne à ce moment-là, alors que je passe mes 10 années précédentes en banlieue ou sans vouloir être dans le cliché basique, tu comptes ce que t'as dans tes poches, quoi. Mmh. En tout cas, tes amis, parce que je viens, bah, encore une fois, je viens d'un milieu qui est normal, où j'ai manqué de rien. Tes potes, ils sont toujours à la recherche de...
De caillasse, ouais.
Ouais, voilà, ouais. T'as pas les parents pour aider derrière. Donc, je me retrouve dans totalement inverse. Je vois bien que c'est anormal, mais je regarde et je m'intéresse.
Et tu profites.
Et je profite. Je profite, tout à fait. Je finis cette prépa HEC. Et je fais une école de commerce derrière. Parce que pareil, on me dit en fait c'est cool de faire une école de commerce, c'est la grande mode des écoles de commerce. Hein. Mmh. Et donc je me retrouve dans une école de commerce dans le Marais, en plein troisième. Et là les choses changent. Les études m'excitent. Toujours pas plus que ça, ouais. Mais en fait, école de commerce, tu peux choisir, ouais. C'est beaucoup plus généraliste.
C'est à la carte.
J'arrive à choisir, c'est à la carte, donc je m'oriente beaucoup plus vers communication, relations publiques, culture. Et à chaque fois qu'il y a des rapports de stage, des trucs à faire, je prends des thèmes qui sont effectivement la culture, les médias. Donc en fait, je commence à m'orienter tout petit peu vers les choses qui en tout cas m'excitent et m'intéressent intellectuellement. Et donc, je suis à nouveau et toujours, et là, ça dure 3 ans, je suis dans Paris. Et c'est super important parce que ça change un peu la donne. Effectivement, ça te fait voir, ça te fait rencontrer beaucoup de monde et d'autres gens. Sans être dans le stéréotype du 16e arrondissement. À quel moment ça bascule ? Ouais, non, si ça bascule à un moment assez précis, je pars vivre... on est sur une séance de psy, quoi. Là, je vais tout donner, je raconte tout. Je pars vivre 6 mois, pas pour un stage, mais pour un échange dans le cadre de l'école à Madrid. Pas 6 mois, bon, bref, quelques mois, où évidemment, c'est la folie. J'ai 20 ans, je suis seul à Madrid.
C'est l'auberge espagnole.
Ouais, je m'éclate, je sors, je découvre la vie seul dans une capitale européenne. Et quand je rentre de Madrid, j'ai fait n'importe quoi et je rentre avec, je sais pas, 15 000 ou 18 000 francs de découvert.
Pas mal.
Ma mère elle me dit, tu vas apprendre, tu vas te débrouiller tout seul pour le rembourser. Et je commence à m'intéresser, c'est un moment où je commence à m'intéresser à la mode. Donc je m'imprime un CV, je me dis débrouille-toi, trouve-toi un job d'été. Et le premier magasin où je rentre avec un CV, c'est Killy Watch. Il y a un mec formidable à ce moment-là qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Eric, qui est le patron de la boutique de Killy Watch, pas de la marque, parce que derrière c'est devenu une marque. Voilà, qui est un mec qui avec beaucoup de charisme, qui parle très fort, qui est plutôt très rentre dedans et qui tout de suite qui me demande quel signe astrologique je suis. Je réponds balance. Je dirais pas mal, j'aime bien les balances. Vas-y, pose ton sac quelque part, tu fais une journée. Vous êtes deux là, aujourd'hui, que je vais tester. On verra à la fin de la journée qui reste. Bon. Et bah, je me retrouve dans ce magasin complètement hallucinant qui est à la fois un magasin, à la fois un concept store, à la fois une boîte de nuit, à la fois un lieu de contre-culture, un lieu de passage de d'une faune ultra mélangée, où t'as à la fois des gens de la rue, t'as des stars, t'as des mannequins, t'as des photographes, t'as tout le monde qui passe dans ce magasin toute la journée. Et t'as surtout un truc, c'est que t'as la musique extrêmement forte qui est jouée.
Ok.
Et la musique qui est jouée, elle est jouée par tous les employés, plus Eric, qui, quand il en a marre, dit ah, « enlève-moi ton disque de merde », et qui met son disque, qui son disque est généralement plus violent que le truc qu'on a écouté avant. Et chaque vendeur est une personnalité. Mm. Et bah là, j'hallucine totalement. Et je me dis, ah, putain, c'est cool. Donc, je me défonce toute la journée. Et à la fin de la journée, c'est moi qui reste. Et donc là, je passe mon été à Killiwatch. Et c'est un basculement. Parce que je passe ces deux mois là-bas. Je découvre énormément de musique. Je rencontre énormément de gens parmi les vendeurs. Qui ces mêmes vendeurs sortent tous les soirs. Et que les vendeurs de Killiwatch, c'est vraiment une bande de potes qui sort entre eux. Et donc là, je me retrouve à sortir dans des endroits que j'avais pas connus jusqu'alors. Je découvre de nouvelles musiques, puisque mon spectre musical s'est pas encore totalement ouvert. Je suis encore quand même très rap. Et là, voilà, là, c'est l'explosion.
Mmh. Trop bien. Ok. C'est marrant parce que Killiwatch, je le voyais pas du tout comme ça. Ça a un peu mal vieilli quand même, parce que c'est devenu très.
Ouais,
très
j'y retourne finalement. De temps en temps, mais il y a toujours Alex, ouais. Qui était vraiment le tandem avec Eric. Alex, beaucoup plus mode. Mmh. Eric, c'était le tenancier de boutique à l'ancienne, qui est adorable, mais qui peut te hurler dessus devant un client et te foutre une honte. Donc, un management très à l'ancienne. Hein. Je suis pas sûr que le management d'Eric aujourd'hui puisse passer.
Il y a pas de communication non violente.
Ouais. Ouais, mais en fait, qui t'apprend la vie, quoi. Il a jamais été non plus. Il y a peut-être des gens qui ont pu se plaindre. Bon, moi, il a jamais été vraiment désobligeant avec moi. Non, c'était un carrefour. Et puis, c'était la rue Étienne Marcel aussi de cette époque-là. Elle bouillonne. Hein. Ouais. T'avais l'axe entre. Le début, c'était Killiwatch. Ouais. Avec le café qui est à côté de Killiwatch, qui pareil est un repère de branchés.
Ouais.
Ça allait de Killiwatch au shop.
Okay.
T'as peut-être pas connu le shop.
Non,
shop, fantastique concept store. Donc là, pour le coup, vraiment concept store, avec plein de corners, de marques mélangées. Encore une fois, la musique extrêmement forte, des DJ toute la journée. Et en fait, les vendeurs du shop versus les vendeurs de Killiwatch, tout le monde se connaissait. Il y avait une vieille mini-concurrence, mais en fait, c'était juste, ça se toisait. Mmh. Et tout le monde se croisait en club le soir.
C'était quoi les clubs ?
Ah, c'était beaucoup les bains-douches. Mais alors, les bains... t'avais deux étages. T'avais le premier étage et t'avais le. Pas le sous-sol, mais oui, t'avais deux étages. Premier étage était vraiment l'étage fancy où t'avais les stars. Ce sur quoi le. Entre autres, hein, la notoriété et toute l'histoire des bains s'est construite dans les années 80-90. Et nous, c'était plutôt l'étage du bas. House music, ouais. Musique électronique, techno.
Ok.
Donc beaucoup les bains à l'époque, ouais.
D'accord. Donc tu passes l'été là-bas.
Ouais.
Et tu restes ou tu... Qu'est-ce que tu fais à la rentrée?
Je passe l'été là-bas, je rencontre quelqu'un et qui je reste longtemps. Okay. Donc ça forge, tu vois, c'est vraiment un marqueur dans ma vie. Je rencontre quelqu'un, je me mets avec quelqu'un que je rencontre à Killiwatch. Qui est,
d'accord.
Qui est vendeuse aussi là-bas. Je reste tout l'été, je rembourse mon découvert. Je continue à faire la suite de mes études, mais je bosse à Killiwatch tous les week-ends ensuite. Okay. Non pas parce que... Oui, bah alors déjà parce que ça m'assure un petit revenu et que j'ai plus besoin de demander quoi que ce soit à mes parents, et c'est toujours agréable.
Mais surtout
parce que pour le kiff, quoi,
ah ouais.
De rencontrer des gens, d'être en connexion avec la mode, d'être en connexion avec la nuit, d'être en connexion avec la musique.
C'est l'épicentre du
ouais,
monde.
Ouais,
de ton
ouais.
monde, en tout cas.
Ouais, tout à fait. Voilà.
Qu'est-ce
on continue
passe.
Qu'est-ce ouais. qui se passe après
Qu'est-ce qui se passe
ça, on va le faire dans les grandes lignes, parce que sinon je peux parler pendant des heures.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe après
3 heures.
Je finis cette école de commerce, et quand je la termine, je me dis... Alors je la termine, alors pour le coup, je réussis tout bien.
Les doigts dans le nez, haut la main.
Ouais, plutôt, de ouais, c'est pas hyper compliqué. Hein. Donc je termine cette école, et je me dis, ok, je viens d'apprendre tout ce que je ne voulais pas faire dans ma vie.
Ok. Merde.
Donc, non, mais c'est pas mal. C'est un bon début,
tu vois. Ouais,
tu dois avoir 21, 22 ans, je crois, un truc comme ça, ou 23, je sais plus. Donc, je sais ce que je ne veux pas faire. Et là, je me dis, bon, bah, il te reste plus qu'à trouver ce que tu veux faire. J'aime bien la mode. Je trouve un premier stage à la Samaritaine.
Ok.
Samaritaine, donc au bureau de presse de la Samaritaine, où je suis donc attaché de presse de la Samaritaine, enfin je ne sais même pas ce que ça veut dire attaché de presse à l'époque. La Samaritaine, à ce moment-là, veut essayer de repositionner le magasin
ouais.
On va être un peu le bon marché de la rive droite. Et donc je m'occupe de la mode, et je me rends compte très vite que bon, la mode c'est sympa, mais de l'extérieur. mais je m'amuse bien, ça me fait marrer, je trouve ça improbable, je le prends pas vraiment au sérieux.
Ouais.
Je rencontre des journalistes de mode, je rencontre des gens intéressants. Je crois que de mémoire, j'organise une petite soirée à Samaritaine, je m'en rappelle plus très bien. Deuxième basculement dans ma vie. Un jour, il y a un mec qui se pointe dans le bureau. Le bureau où j'étais était tout en haut de la Samaritaine. Pendant qu'on entend David Bowie, qui pareil, a révolutionné ma vie dans ces époques-là. Il faut dire qu'on a, on a laissé Fip tourner pendant que je parle. Bref, il y a un mec qui rentre dans le bureau, pareil, grande gueule, gros bagou, et qui me dit « Ah, j'ai rendez-vous avec ta boss. » Bien sûr, pas de souci, je vous annonce qui êtes-vous. Jacques Massadian, Nova. Et bon, là c'est
un truc,
il y a l'ampoule qui s'allume, je dis bien sûr, donc je l'annonce à ma boss, il rentre en rendez-vous, le bureau derrière. J'avais un Nova Magazine sur moi, puisqu'à l'époque il y a encore Nova Magazine.
Okay. Ah c'était un magazine aussi.
Aussi,
je sais même pas.
Okay. Nova Magazine, Radio Nova. J'avais un Nova Magazine sur moi, parce que Nova Magazine était le canard, le magazine indispensable pour tout jeune parisien qui aime la mode, qui aime la musique, qui aime sortir. Je regarde tout de suite dans l'ours de Nova Magazine et je vois Jacques Massadian avec un titre assez improbable, directeur de la fabrication, mais qui est hyper haut dans l'ours, quasiment assez proche de Bizot. J'imprime un CV en 2 secondes, pas très loin imprimé le CV. Massadian sort du bureau, se barre de notre bureau. Je dis post-clope, je le suis en loose day et je monte dans l'ascenseur avec lui.
Elevator speech.
Hein?
Le fameux elevator speech, non, tu l'enchaînes.
Exactement, et je le regarde et je lui dis, oh, je me fais vachement, je m'emmerde ici. Je suis un enfant de Nova. Prenez-moi, franchement, je viens gratos, je fais ce que vous voulez, quoi. Il explose de rire, hein, je lui file mon CV que j'avais dans ma poche. Il me regarde, il me dit, mais t'es qui, toi? Je suis rien, je suis un jeune, mais je suis un enfant de Nova, je rêve de bosser à Nova.
Quel culot.
Ouais, il faut provoquer le destin, ouais, le culot, ouais, c'est hyper important. Faut savoir le doser, hein, attention.
Ouais, ouais. Et pas être trop relou.
Mais tu sens quand c'est un moment important dans ta vie. Donc tu le sens quand il faut y aller. Donc il se marre, il se barre, je vais vraiment fumer une clope, et le lendemain on m'appelle. Et on me dit, bon, donc c'est pas lui qui m'appelle. Et on me dit, je pense pas trop qui vous êtes, mais passez à la radio, on nous a dit que c'était cool de vous voir. Et c'est comme ça que ça fonctionnait Nova à l'époque, et que ça fonctionne, je pense, encore toujours aujourd'hui. Et donc, je vais à mon rendez-vous à Nova, je tombe sur un mec génial qui s'appelle Patrice, que j'embrasse très fort, qui lui n'est pas mort. je me retrouve en... si on peut appeler ça, en entretien, en discussion dans le bureau de Patrice, qui est directeur marketing de Nova à l'époque, qui avait une vision assez folle du marketing. Et on a une discussion pendant une heure où on parle notamment de Bowie, on parle de Warhol. J'ai un tableau derrière moi gigantesque de Placide où un mec se prend un micro dans le cul qui ressort par la bouche. J'hallucine un peu. J'ai dit à Patrice, c'est quoi ce tableau ? Il me dit, ah, bah, c'est notre vision du marketing à la radio chez Nova. Bon, et je me dis, ok, j'espère que cet entretien va fonctionner, quoi. On me rappelle deux jours après, on me dit, bon, bah, t'es pris, tu rentres en stage à Nova. Et là, j'arrive à Nova, et dès le premier jour, c'est d'une clarté, d'une limpidité, et c'est absolument intact dans ma tête. Je me dis, tu vas t'accrocher, tu vas tout faire pour être engagé ici, parce que je sais que c'est ma place. C'est ma place parce que il y a le côté radio qui remonte, et que j'arrive dans un endroit de fou qui ne vit que pour la culture au sens large. Et cette fameuse contre-culture, même si on traite de toutes les cultures, quoi. Ça n'est pas uniquement contre-culture pour contre-culture. Mais en tout cas, on explore des territoires musicaux, littéraires, culturels, médiatiques, qui sont uniquement ceux qu'on a envie d'explorer et pas ceux pour faire plaisir à un public. Et ça, c'est formidable, avec une liberté infinie.
Ouais.
Voilà mon arrivée à Nova.
Voilà. Ok, donc premier chapitre assez cool. Je sais pas par quoi commencer parce qu'en fait t'as Nova. C'est quoi ton cheminement chez Nova? Parce que tu rentres chez comme interne, enfin comme stagiaire. Mais surtout qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette liberté?
Bisous.
Qui a de l'argent et qui
tout le monde bosse. Attends, monde bosse comme des fous, hein. C'est pas, il y a pas une profusion d'argent. Il y a un média qui, donc à cette époque là quand j'arrive à Nova, donc il y a encore Nova Magazine, il y a Radio Nova, un média privé totalement indépendant, dont le boss est là dans les locaux. Et dont la vie ressemble à ce qui est défendu à l'antenne et dans le magazine. Donc on est dans un truc qui est exceptionnel pour l'époque.
Mais qui est unique.
Qui est un luxe. Non, qui est pas unique. Non, qui est pas unique. Enfin, je pense pas. Qui est assez unique dans le cheminement, dans la carrière de Bizot, dans la manière dont effectivement tout repose sur Bizot, qui à la fin de l'année dit. Je remets tant ou je remets pas tant, quoi. Et si je remets pas tant, bah, ça veut dire qu'on arrête. Si je remets tant, ça veut dire qu'on continue, grosso modo. Oui, la liberté, elle est assez unique, mais j'ai pas été dans d'autres... tu vois, je me permettrai pas de comparer parce que j'ai vraiment fait derrière 18 ans à Nova, quoi. Mais oui, c'est quand même assez unique parce que voilà, c'est une boîte... composé de gens assez fous de par leur liberté, hein, mais qui est quand même hyper bien géré, et où il y a de la vie, quoi. Une profusion de vie, de folie, qui derrière va faire que Nova aura plusieurs vies, qu'il y a beaucoup de monde qui vont disparaître aussi, qui vont mourir tout simplement. Parce que ça correspond aussi à un mode de vie assez dingue des anciens, qui tous s'éteignent plus ou moins de la même manière, tu vois, 65 ans, quoi. Personne n'a jamais dépassé 65 ans dans ceux qui ont construit Nova et cette époque. Ça correspond à leur mode de vie, quoi. Le corps ne pouvait pas tenir plus longtemps.
Ils ont tiré sur la corde.
Ouais. Ils ont vécu, quoi. Ils ont vécu fort, vite, intensément. Mais ils ont légué des choses énormes, quoi. Dont les traces existent encore aujourd'hui, notamment dans la musique, parce que c'est là, moi, où je me suis toujours concentré. Voilà. Et un côté extrêmement famille, et avec beaucoup de passages. Genre, quand tu regardes dans le viseur le nombre de gens qui sont passés par Nova et qui ensuite ont eu des carrières exceptionnelles, mais et atypiques, tu peux en citer tellement, quoi. De Jamel à Edouard Baird.
Ils sont tous passés par là.
Ouais. Jamel, il est passé, bah, Jamel a commencé à Nova. Omar Sy a commencé à Nova. Edouard Baird, Wiesmann. Si tu vas dans la musique, Yvan Smag, enfin je sais pas, tellement, DJ Mehdi, Dynasty, on en a parlé, Joystar.
Ils doivent tous leur début de carrière.
Je sais pas s'ils le doivent, mais en tout cas, Nova était là à un moment où il fallait être porte-parole de cette contre-culture. À un moment où il n'y avait pas d'autres médias, pas d'autres radios qui donnaient la parole à cette culture-là. Et. À offrir des premières chances. On est quand même là pour ça. Faire découvrir des artistes, faire découvrir des personnalités, donner le micro à des gens dont c'est la première fois, mais qui ont des choses à dire. Pertinentes, très intéressantes et originales.
Alors toi qui as la tête sur les épaules, mine de rien, parce qu'aujourd'hui tu es quand même patron d'une, enfin tu es directeur d'une radio, comment est-ce qu'on construit sa carrière? Comment est-ce que... alors déjà, qu'est-ce qui fait que t'es embauché derrière? T'as tout donné, mais
tu défonces pendant 6 mois.
Mais ça veut dire quoi, se défoncer?
Je défonce pendant 6 mois. Ben, ça veut dire que je fais tout ce qu'il est possible de faire. Je le fais, et puis naturellement, je pense que les gens qui dirigent la radio à ce moment-là voient que je respire l'ADN de Nova, quoi. Que je suis heureux d'être là. Je suis tout le temps là, partout. Je suis là à 9h du mat.
Et tu fais quoi là?
Alors à Nova, c'est la meilleure école pour apprendre à tout faire.
Ouais.
Donc je fais tout. Je rentre assistant marketing. Et encore une fois, c'est drôle parce qu'au final, c'est une suite logique de mon école de commerce. Sauf que le marketing à Nova, j'ai jamais connu un marketing pareil. Mais c'est un marketing intéressant. Alors, donc je suis assistant de ce mec, Patrice.
Directeur marketing
et qui, je sais pas, sa vie, je sais pas, c'est une espèce d'Oscar Wilde à côté de toi dans le bureau, quoi. Gay, libéré, qui te raconte le matin à 9h au premier café comment était sa nuit au dépôt, il te la raconte dans le détail, moi t'es mort de rire, et puis qui écoute de la musique, qui lit, un homme cultivé, complètement fou et qui a une vision absolument géniale de la culture, qui d'ailleurs fait partie, avant d'arriver à Nova, il faisait partie des créateurs de Pink TV, qui a été une chaîne gay lancée au moment de la... Je ne sais plus à quel moment, la TNT, je crois, donc dans ces eaux-là, bon bref. Et donc, on est deux dans ce bureau et on est là
pour faire rayonner la Nova.
Pour faire rayonner Nova, pour faire passer aussi Nova dans un petit step supérieur, parce que le marketing n'a jamais existé à Nova. T'es dans un truc d'artisanat pur et dur, de contre-culture. Marketing, c'est un gros mot, quoi. Ouais. Sauf qu'on traite le marketing d'une autre manière. On crée un club d'abonnés qui est lié à Nova Magazine. Donc des gens qui sont abonnés à Nova Magazine mais qui écoutent aussi Radio Nova et qui au lieu de juste payer, je crois, ça devait être 17 balles l'abonnement à l'époque, ils ne le payent pas 17 balles, ils le payent 20 ou 22 balles par mois. Ils ont le magazine et en même temps on leur file en priorité des places sur les partenariats qu'on fait avec Nova, donc concerts, théâtre, cinéma, resto, etc. Et moi j'anime cette communauté. Et on est totalement, avec le recul, on est totalement sur les prémices des réseaux sociaux. J'anime cette communauté qu'on arrive à faire monter à 500 ou 600 abonnés forcenés, tu vois, des vrais forcenés. J'anime cette communauté par mail. Et je l'anime en leur écrivant directement comme j'écrivais à des potes, quoi. La semaine prochaine, j'ai réussi à vous trouver 10 places pour le concert des Roots à l'Élysée Montmartre. Qui prend ? Et répondait. Donc en fait, on a créé cette communauté qu'on connaissait, on les connaissait tous. Dès que Bizot avait besoin d'avoir un retour sur qui écoutait Nova, comment était l'époque, comment vivaient les gens, ses auditeurs ou ses lecteurs, il pouvait nous dire organiser un apéro à la radio. On en invitait 20, on ouvrait 3 bouteilles, 2 paquets de chips, on refaisait la vie et le monde avec eux en parlant hyper naturellement. Et c'était ça, en fait, le marketing. Mmh. C'est qu'on avait un retour direct de qui nous écoutait, de comment était, de sentir le pouls de l'époque au-delà de nos bureaux. Et donc, tu vois, de savoir à qui on s'adressait, ce qui est quand même la chose principale quand tu es un média, que ça soit un radio ou une radio ou un magazine.
Quand tu fais n'importe quel business, en fait.
Ouais, tout à fait. Puis après, on décroche un super budget pour une marque d'alcool que je ne pourrais pas citer là.
Ouais, mais c'était à l'époque où tu pouvais faire de la pub pour l'alcool.
Ah, tout à fait.
C'est fou.
Ouais. Alors, tu as la loi E20. Alors, à moitié, en tout cas, tu peux faire de la pub sans citer le nom de la marque, mais en étant malin. Donc, on décroche un gros budget sur une marque d'alcool que personne ne boit à l'époque, mais que maintenant tout le monde boit. en tout cas, boit en la mélangeant. Donc, une marque d'alcool dont l'alcool est rouge vif.
Ouais.
Donc, absolument amer, pas bon, pas bon du tout. Et l'enjeu de la marque, c'est basique. Hein, c'est, j'ai besoin que les gens boivent mon alcool. Et donc, on crée des soirées qu'on appelle fil rouge.
Ouais.
Et ces soirées, on les fait tous les mois dans des bars. Avec, pour le coup, là, à l'époque, t'as encore le droit de faire des open bars. Et donc, on fait des soirées gratuites tous les mois dans plein de bars différents de Paris. Mmh. Puis les soirées cartonnent. Et petit à petit, de bars, je les emmène dans des clubs et des salles de concert.
Mmh.
Et je fais ça pendant un an. Et au bout d'un an, le rédac-chef de la radio, un mec absolument génial, Marc-Alexandre Milenvoie, parti beaucoup trop tôt, paix à son âme, vient me voir et me dit « Ah putain, c'est cool ce que tu fais, tes soirées, il faut qu'on fasse la même chose avec Radio Nova. On va inventer une soirée, on va inventer des concerts toutes les semaines gratuits. On va appeler ça les Nuits Zébrées. On décide ensemble d'appeler ça les Nuits Zébrées et l'argument massue étant la chaise que tu as juste derrière toi qui est la seule chose avec laquelle je suis parti de Radio Nova et donc on crée ces Nuits Zébrées qui en gros vont être des concerts qui ensuite vont durer 18 ans qui sont des concerts gratuits pour nos auditeurs sur les deux premières années hebdomadaires, donc tous les vendredis dans un club qui n'existe plus, enfin qui s'appelait la Seine Bastille qui aujourd'hui s'appelle le Badaboum, où je me retrouve à tout faire sur ces concerts alors que j'ai jamais organisé de concert de ma vie. Donc je programme, je produis, je fais la régie parce qu'on n'a pas de moyens, je fais l'accueil des artistes, je fais tout et je réunis tous les vendredis 4 artistes sur scène en mélangeant les genres puisqu'on est en plein dans notre nouvelle signature qui est le grand mix. Donc tu peux te retrouver avec une Nuit Zébrée où tu as de la pop, du rap, de la folk et de la musique électronique. Alors, pas dans cet ordre-là, j'aurais mis la folk en premier. Et je fais ça tous les vendredis. Et c'est genre, dès la première, c'est un carton. C'est un carton
et t'invites qui là, à cette époque-là et c'est ouf. T'invites qui comme artiste comment tu te démerdes pour faire ça? C'est quoi le deal avec la salle?
On monte un no deal. On dit à la salle, on veut venir faire des concerts chez vous. La salle nous dit oui, on veut que ça soit gratuit. La salle dit bah, comment on fait? On leur dit on vous laisse 100% du bar, 100% du vestiaire. Vous nous accueillez avec la technique et le son. Nous, on amène la prog, la communication. On vous garantit que votre salle
sera pleine,
sera toujours remplie.
Ouais.
Tout le monde va s'y retrouver, vous inquiétez pas. Nous, on ne cherche pas à gagner de l'argent là-dessus. On aimerait essayer de ne pas en perdre parce qu'on perdait de l'argent sur tout ce qu'on faisait. et les artistes viennent, c'est en direct à la radio, donc les artistes c'est de la promo
trop
pour
bien,
eux.
Okay.
Donc voilà, il y a des petits, il y a des défraiements, des choses comme ça, mais il y a pas de gros cachets. Et là, je sais pas, tout le monde, enfin, je fais 4 artistes tous les vendredis, donc.
Donc t'en vois beaucoup.
On en fait quasiment 70 concerts en 2 ans.
C'est
hyper
énorme.
Intense et ça devient un vrai rendez-vous.
Et là, l'objectif du départ de faire rayonner la radio, c'est carton plein.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est Nova sort des. C'est important pour une radio de sortir de là où elle émet.
Ouais.
La vie d'une radio se passe évidemment à 90% de son temps
dans ses
là où elle est, dans ses studios, dans ses couloirs, dans le bureau des programmateurs, puisqu'on parle de radio musicale, que ce soit pour Nova ou FIP.
Ouais.
Après les 10% restants, c'est hyper important d'être à l'extérieur, de faire la fête avec ses auditeurs, de créer un contact entre les artistes et les auditeurs. de créer, voilà, encore une fois, hein, je reviens toujours à ce mot-là qui est, on a un média du direct, on a un média de la vie, donc c'est important d'entretenir, de faire rayonner sa radio et de la faire vivre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, et toujours gratuit. Donc les places très vite, au bout de la cinquième nuit zébrée, au bout d'un moment où le mot s'est passé, les places partent systématiquement. À l'époque, on ne le fait pas par numérique, donc les places sont à l'accueil du standard de Nova. Donc dès le lundi matin à 8h, tout le monde a compris, tu as une queue qui sort de la cour du Faubourg Saint-Antoine, et c'est systématiquement complet le lundi à 9h.
Trop bien.
Donc ensuite, ça s'échange les places et ça devient un truc voilà, que les gens se refilent. Et tout le monde passe aussi bien, toujours avec cet esprit de « il faut mélanger », donc des artistes connus, des artistes moins connus, ceux en devenir, etc.
Et tu vends ça combien, les places?
C'est gratuit.
Ah, c'est gratos.
Ouais.
C'est juste, il faut avoir le petit ticket quand même.
Il faut passer à la radio. Il faut se manier, se lever tôt pour passer à la radio.
Il faut se bouger.
Et donc,
pour
tu viens à la radio aussi, tu fais venir tes auditeurs à la radio.
Ouais.
Hyper important.
Trop bien.
Qui voient de où les choses se créent et se passent. Créer une relation avec ses auditeurs.
Mais
d'une manière générale.
Vous êtes des génies du marketing à l'époque.
Non, pas de génie. Ça, c'est ce quoi. C'est existait avant, ça s'appelait les radios crochets. Hein.
Oui, oui.
Mais
okay.
Effectivement, Nova l'avait jamais vraiment fait. Avait fait des fêtes gigantesques dans les années 80-90. Vraiment des fêtes gigantesques et folles. Mais ce rapport direct à l'auditeur, sans être dans un truc hyper fancy, etc.
Ouais,
juste
très, très simple.
Musique hyper simple, c'était plutôt nouveau.
Trop bien. Alors toi, tu fais ça pendant... Tu fais pas que les nuits zébrées pendant 20 piges.
Ça me prend quand même un boulot monstre.
Ouais,
je fais les nuits zébrées, je continue à m'occuper de cette communauté qui s'appelle les Nova Friends. On continue à leur faire des soirées vraiment juste pour eux. On bloque des bars et on se retrouve là-bas dans les bars à 200, 300. Et t'as à la fois les gens de la radio qui viennent, les auditeurs. Donc tout le monde échange. Et puis après, comme tout à Nova, tu fais tout. Tu fais tout, tout le monde fait un peu tout, donc tu commences à toucher un peu à la radio. Je me retrouve à programmer deux Gay Pride. Alors ça s'appelle plus déjà la Gay Pride à l'époque, ça s'appelle la Marche des Fiertés.
Oui.
La Marche des Fiertés, je me retrouve à programmer donc deux Marches des Fiertés, souvenir hyper fort, en 2004 et 2005. Donc on installe un podium Radio Nova. Première année Bastille, second République, où là, t'as 100, je sais pas, j'ai jamais compris combien il y avait. Un coup, on me disait qu'il y avait eu 200 000 personnes. Bon, moi, je pense qu'il y avait plutôt 50 000, 60 000, ce qui est déjà magistral. Enfin, t'as un podium avec une foule
de
à
dingue.
Perte de vue.
Ouais.
Et tu fais jouer... tu fais jouer Garnier.
Le meilleur du moment.
Ouais. Tu fais jouer Garnier, tu fais jouer Chris Corda. Jennifer Cardini, une de ses premières dates, qui est aujourd'hui la sainte patronne de la musique électronique en France, avec Garnier justement. Donc voilà, après, voilà beaucoup d'organisations de fêtes, et petit à petit, je me rapproche beaucoup plus de la radio.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'auparavant, j'arrive à Nova, mes premières années, je suis rattaché à la régie, puisque je suis vu comme assistant marketing. Mais très vite, avec les nuits zébrées, mon rôle se déporte, je délaisse un peu le marketing, mon rôle se déporte vers la radio.
Vers le contenu, quoi.
Ouais, tout à fait. Et petit à petit, je construis mon poste.
Ok.
Et je rencontre tous les vendredis tous ces artistes. Je parle avec eux, je rencontre les maisons de disques, je rencontre les managers, je rencontre les attachés de presse. Et sans m'en rendre compte... Je commence à me créer un carnet d'adresses monumental, puisque c'est tous les vendredis, et que je suis présent tous les vendredis. Il n'y a pas une nuit zébrée que je loupe. La seule nuit zébrée que je loupe en 18 ans, c'est le jour de la naissance de mon fils. Ces nuits zébrées, je les fais grossir au fur et à mesure des années. Je les amène en région, puisque Nova a des fréquences en région.
C'est Marseille
Marseille, Bordeaux, Montpellier, etc. Et on se retrouve sur des jauges où on n'est plus sur du 400, mais on est sur du 1500, 2000, certaines villes 6000. Et donc, petit à petit, je deviens directeur artistique de Nova. Ce qui veut tout et rien dire. Mais il fallait bien qu'on me donne un poste, un titre.
D'accord.
Donc, je deviens en fait la porte d'entrée... Je suis pas programmateur, c'est vraiment deux métiers différents, mais je deviens la porte d'entrée pour les labels, les artistes, les maisons de disques, les managers de Nova sur la partie musicale, artistique. Voilà.
Donc un job hyper important et hyper très
important,
influent.
Tout à fait.
Ouais, avec un rôle essentiel. Et c'est quoi la différence entre programmateur et
programmateur, tu programmes la musique qui passe la journée sur l'antenne.
C'est toi qui choisis la musique qui passe.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Voilà.
Et il y en a plusieurs des programmateurs, non, j'imagine, dans une radio.
À Nova, il y en a deux.
Ok.
On parlera après de FIP.
Ouais, ça marche.
Qui est un poste encore plus primordial. Donc directeur artistique pendant des années à Nova, j'organise toute la partie événementielle, des émissions spéciales sur l'antenne, etc. Mmh. Je la fais rapide parce que sinon on va passer 3 heures sur Nova. Donc directeur artistique pendant assez longtemps. Puis il arrive à un moment où on en a parlé tout à l'heure, les anciens meurent, dont Bizot. Et donc là, c'est forcément un tournant.
C'est la fin de la liberté.
C'est pas la fin de la liberté, mais c'est la fin de l'insouciance. La famille de Jean-François prend le pari de ne pas vendre Nova, mais on sait qu'on ne pourra plus compter sur du réinvestissement. Entre-temps, Nova Magazine a été fermé, etc. Mmh. On n'est plus que sur du Radio Nova qui commence à monter et à trouver une solide assise sur la bande FM en termes d'audience, en termes de revenus, etc. Mmh.
Parce que d'ailleurs, le modèle économique d'une radio, c'est quoi ?
Privé, la pub.
La pub.
Point. T'as pas d'autres possibilités.
T'as 10 minutes par heure et de pub, non, c'est quoi ?
Un peu plus.
Un peu plus.
Un peu plus.
Ok.
Un peu plus. Suivant les. Ça dépend beaucoup des périodes et du marché publicitaire, mais t'as des pubs tous les quarts d'heure, 20 minutes, qui peuvent aller de 2 à 6 minutes. Donc tu fais x4 le calcul, tu peux vite monter sur certaines périodes à du 25 minutes de pub par heure.
Ah ouais.
Yes. Donc c'est ça, le 3/4 de ton revenu passe par là, et ensuite ça va être le travail avec des marques. Parce que
création de
en
contenu,
tant que directeur artistique, je faisais énormément. Soit avec la mode, soit avec des marques d'alcool, soit avec la technologie.
Dans l'événementiel ou sur les ondes.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Soit en marque blanche, c'est-à-dire que tu ne traites pas de l'opération que tu vas monter avec la marque sur l'antenne, soit opération spéciale où là tu le couples à l'antenne. Et tout le monde se mouille.
Ouais.
Mais t'essaies de créer un contenu qui ressemble à Nova, qui est en rapport avec le brief de la marque, qui vient quand même chercher qui vient chercher le côté branché des fricheurs de Nova. Donc ça, j'en fais beaucoup. Ça te génère du revenu, mais pas du tout à la hauteur de ta pub qui passe à l'antenne, qui est franchement le 3/4 du moyen de financement d'une radio privée.
Mais alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand même tous les médias, les nouveaux médias, les societies et peut-être les combini, etc., ou les brutes, j'ai l'impression que le gros du business, il vient de là quand même.
Oui, tout à fait, ils le font très bien, bien sûr. Oui. Ils sont créés là-dessus même, combini est créé en partie là-dessus, sur Soch, si je ne dis pas de bêtises. Society, non, Society part d'une idée éditoriale, d'une envie éditoriale, et ensuite derrière finance son magazine, le fait grimper. Je connais pas comment Society se finance, etc.
Ouais.
Mais par la pub, parce que le magazine se vend bien.
Trop bien.
Mais Society a développé aussi ça. Hein. Je crois qu'ils ont une agence
de création de contenu
à côté, etc.
Trop bien.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe après ?
Après, au bout d'un moment, la famille ne vend pas, mais nous, on arrive au maximum de nos capacités financières pour pouvoir continuer à grossir. Donc, on est vendu.
Dans quelle année, là ?
Enfin, on est vendu, on est acheté, plutôt.
Ouais.
On est en 2015.
Ouais.
Et Nova est racheté par Mathieu Pigas, qui a racheté les Inrock quelques années auparavant et qui monte, qui a l'intention et qui monte un groupe média culturel indépendant, plutôt intéressant, puisqu'il réunit des marques qui ont un ADN commun, deux contre-cultures, les Inrock, Nova, et il va racheter dans un troisième temps un festival de musique qui est Rock en Seine. Donc Nova est racheté par Mathieu Pigas. Il y a quelques bouleversements, forcément, comme tout rachat à la radio, notamment dans la direction générale. Je garde mon poste de directeur artistique, je continue mes nuits zébrées, je continue à beaucoup bosser de plus en plus avec des marques, donc sur la partie opération spéciale. Et je crée donc je crée plusieurs nouvelles émissions, les Nuits Zébrées continuent, je crée la petite sœur des Nuits Zébrées qui s'appelle le Nova Mix Club, où là c'est plutôt dédié uniquement à la musique de club, que je fais pareil, sur la même formule. J'ai créé les Nuits Zébrées 18 ans avant, c'est-à-dire tous les vendredis on se retrouve dans un club de 20h à minuit, ça va être rapide, bref et intense, je programme 4 DJ, donc là je vais toucher un autre public, plus jeune, musique de club. Et je me retrouve un peu aussi par le fruit du hasard et des affinités à programmer de la musique deux fois par semaine dans l'émission d'Edouard Baird, plus près de toi, où je crée un format live un peu absurde, c'est-à-dire que deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, si je dis pas de bêtises, j'invite des artistes à venir jouer live à la fin de l'émission d'Edouard. Mais du coup, hyper tôt, quoi, à 8h45 du matin, ouais, avec des balances à 6h30, ce qui est complètement improbable. Et ça fonctionne hyper bien. Donc, je continue ce prolongement de programmateur musical, direction artistique programmateur musical. Je suis nommé coprogrammateur de Rock en Seine. Donc j'ouvre une corde à mon arc, ouais, nouvelle. Je crée beaucoup de contenu pour Nova, pour l'antenne.
C'est-à-dire ?
Bah, des idées d'émissions, j'invite du monde, j'invite des artistes dans différentes émissions, je me bloque pas uniquement sur mes lives nuzébrés, donc je participe de plus en plus activement à la vie de la radio.
J'aimerais qu'on s'arrête deux minutes là-dessus, mais qu'est-ce qui fait qu'une émission est une bonne émission? C'est quoi le bon concept?
Un bon animateur, un bon invité, une liberté de parole, des sourires quand on parle.
Ouais.
Hyper important le sourire à la radio. Un bon animateur journaliste,
ouais,
c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire parler sans être dans des trucs hyper codés que tu peux retrouver dans d'autres radios, qui rend la relation avec l'artiste naturelle, de la dérision, de la liberté, ne pas se prendre au sérieux et être pertinent, être hyper pertinent sur ce qu'on raconte ou sur le sujet qu'on traite.
Ouais, donc il y a quand même un angle journalistique qui est hyper important.
Évidemment, que ce soit sur la musique, la littérature ou quoi que ce soit.
Il faut être hyper sharp.
Et un bon invité, hein, un invité qui arrive qui est de mauvaise humeur, il n'y a rien de pire, hein, même si t'es un super journaliste en face. Ouais. Mais,
Comment tu fais pour le détendre?
Tu parles avant avec lui ou pas? Je sais pas, ça c'est la magie de la radio. La magie de la radio et des rencontres.
Ouais. Ça connecte ou pas?
Mais tu vois, j'étais plutôt. Là, tu me faisais peur avec ton podcast de 4 heures. Tu vois, finalement, je suis en train de parler beaucoup plus que prévu, quoi. Donc c'est comme ça, c'est les rencontres, c'est aussi l'avant, quoi, avant le bouton direct.
Bien sûr. Trop bien. Et qu'est-ce que tu retiens de ces années-là, toi? Qu'est-ce que tu kiffes? Est-ce que t'as des moments, des hauts, des bas, des moments où tu te dis ça me fait chier, j'ai envie de changer?
Pas du tout. On s'éclate au travail, ce qui est quand même un luxe inouï, quoi.
C'est le kiff total.
Les seuls moments où t'as des bas, c'est quand tu vois ton audience baisser, alors que tu taffes comme un fou. Et que tu sais que ton audience, elle baisse parce que la manière d'écouter la musique, puisque t'es une radio musicale, elle est en train d'être révolutionnée littéralement. Et que tu sais que ça va s'inscrire évidemment...
sur le long terme, ouais.
Ouais, sur l'éternité même. Donc t'as des web radios qui arrivent, qui n'ont pas les mêmes contraintes que toi, donc pas de pub. Et puis t'as le bouleversement monumental avec l'arrivée des plateformes musicales.
Ouais.
Où là, tu sens que ça va être compliqué en tant que radio musicale dans les années à venir. Surtout que tu as de la pub et que tu ne peux pas faire sans ta pub. Si tu arrêtes ta pub sur ton antenne, tu réduis ton effectif de 3/4. Tu peux pas. Donc, il faut composer avec la pub. Donc, il faut sans cesse raconter une histoire pour garder tes auditeurs avec toi. Mais tu sens irrémédiablement que ça va être compliqué. Ouais. Tu sens que ça va être compliqué.
Ouais.
Avec ton format, tu sens que tu... Ça va être très complexe de rivaliser avec les plateformes.
Et ce qu'on dit pas, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent à cette époque-là.
Moi, personnellement, non, pas vraiment, non.
Ouais, donc chamboulement du paysage audiovisuel, j'allais dire, mais c'est
musical et radiophonique, de fait.
Ouais.
Puisque t'es une radio musicale.
Ouais, ouais.
Donc en fait, t'as soudainement... soudainement, les auditeurs, le public d'une manière générale, devient... a la possibilité de devenir complètement indépendant dans sa manière d'écouter la musique. Donc il faut constamment Trouver une manière de se recréer, de retrouver une attractivité, d'expliquer aux gens que voilà, la radio est différente d'une plateforme, donc tu développes plus que jamais le côté humain dans ta manière, dans ta grille, quoi, dans tes émissions, d'essayer de te mettre le moins possible en face des plateformes. Voilà. En tout cas, d'expliquer ta différence.
Ouais. Et c'est quoi la différence alors, parce que t'es en face, grosso modo, t'as Deezer, t'as Spotify et t'as tout le reste et les web radios.
La différence sur les plateformes, c'est que tu écoutes la musique que tu veux écouter, et on y reviendra, parce que là justement il y a une réflexion beaucoup plus très intéressante par rapport à FIP, tandis que quand tu vas sur une radio, tu écoutes la musique que les programmateurs et que la radio ont envie de te faire écouter. Voilà, donc il faut attiser la curiosité des gens. Donc voilà, donc à Nova, je produis de plus en plus de contenu. Un des faits d'armes dont je suis extrêmement fier dans la création de contenu, c'est d'arriver à monter un show sur mesure multimédia, puisque c'est à la fois une émission avec tous les codes de la télé et des late shows américains, mais qu'on ne diffusera pas à la télé, qu'on diffusera uniquement en direct sur YouTube et en même temps à la radio pour un artiste dont je suis assez proche à l'époque, qui est L'Homme Pâle. Voilà, rappeur, chanteur français qu'on ne présente plus. Et pendant 3 mois, je crée une équipe et on crée avec lui, vraiment, il vit à la radio un show sur mesure, complètement délirant, qu'on appelle le Vérité Show. Et je me fais remarquer par le nouveau directeur qui arrive à ce moment-là, qui est Emmanuel Hogg, en 2019, avec qui je m'entends très rapidement très bien, alors qu'on a des profils, et qu'il a un profil plutôt différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent à Nova, à savoir un énarque, mais évidemment un homme de culture. Et on s'entend très bien très vite, il a cette capacité de comprendre extrêmement vite comment fonctionne la radio, quel est l'ADN de Nova, et il me donne les clés de la radio. À moi et à Mélanie, qui est mon binôme historique à Nova, parce qu'elle a le même parcours. Elle est arrivée stagiaire au Standard à 3 mois après, même moment que moi. Donc on a la même vie plus que parcours, quoi. On a vécu 15 ans ensemble. Il nous file les clés de la radio. Et là, on est en 2019. On a le binôme dont on a toujours rêvé, quoi. C'est-à-dire, moi, je gère toute la partie artistique et Mélanie gère toute la partie management, direction, ambiance. Hyper important d'avoir une ambiance dans une radio. Hyper important.
Ouais. Comment on fait pour mettre une ambiance de ouf?
On est naturel et on rappelle à tout le monde ce que j'ai beaucoup fait en arrivant à FIP. Combien c'est un luxe de travailler dans des radios dont le format est unique et libre. Et qu'on a une responsabilité par rapport aux auditeurs. Et donc là, je suis nommé directeur de la musique de Nova. Et je passe 3 ans... encore une autre vie de Nova, 3 ans exceptionnels à Nova, à diriger la radio, à créer encore de nouvelles émissions, à continuer les nuits zébrées jusqu'au bout.
Ouais, tu lâches pas l'affaire.
Non, c'est hyper important, les auditeurs sont attachés. Et je m'ennuie pas, c'est toujours différent. Et que j'ai besoin d'être connecté constamment humainement aux artistes. Au terrain et aux artistes.
Bien sûr. Toujours dans une fréquence de hebdo ou la
télé? Non, hebdo, tu rigoles, j'aurais jamais eu de vie de famille. non, on l'a passé il y a longtemps en mensuel.
D'accord.
Parce que le show devient beaucoup plus gros qu'auparavant.
Ouais.
Donc t'as besoin de plus de préparation, de temps de préparation. Je continue à coprogrammer Rock en Seine.
Ça veut dire quoi être programmateur d'un festival concrètement?
Ah, c'est différent, c'est complètement différent de ce que tu fais à la radio. Tu le travailles un an ou 2 ans en amont.
Moi, notre rêve, en tout cas, et c'est d'avoir ces artistes-là. Le rêve du public, toujours.
Ouais. C'est totalement différent. Là, t'es plus un média, t'es un événement.
Comment tu sais c'est quoi le rêve du public?
Ton but, Par l'ADN du festival, quoi. Ouais. Rock en scène, c'est construit sur une identité rock. Mmh. Après, t'essaies de faire évoluer un peu ton festival aussi à l'époque. Hein. Mmh. Y a la manière dont t'as écouté la musique. C'est toi qui sais de toute façon où tu veux emmener ton festival. Mmh. Et ça se fait à plusieurs. Hein. Tu programmes pas seul Rock en scène. Actuellement, on est trois. Enfin, on est deux plus le directeur. Donc, c'est différent parce que là, t'es sur une économie où t'es sur de la vente de billets.
Ouais. Tu gagnes ton, tu fais ton ah ouais. ton blé, enfin ton argent ouais. sur les ventes.
Ouais, ouais principalement ouais. sur les ventes, ouais. Ouais, ouais.
Et t'as des artistes qui coûtent très cher.
Très cher.
Ouais, parce que les mecs ils se dépassent pas pour rien, quoi.
Non, très cher. Et puis que les festivals ont une spéculation et une augmentation des cachets monumentale depuis 10 ans parce qu'il y a de plus en plus de festivals, donc de plus en plus de demandes, donc de plus en plus aussi de public qui se déplace sur les festivals. Donc non, t'es sur des cachets
de dingue.
Ouais, c'est indécent, mais bon.
Mais c'est quoi, c'est, comme c'est plusieurs économie. Centaines de milliers, plusieurs millions.
Ça se dit pas et ça se sait quoi. D'accord. Hein, ça se sait sur Internet. Mais très oui, t'es bien. Sur. Ça dépend, hein, comme tout. Hein, un festival se doit de programmer les futurs artistes de demain, donc des gens qui sont émergents, on va dire.
Ouais.
Et se doit de programmer ce qu'on appelle des headlines, ouais. c'est-à-dire ceux qui vont bouger, générer ta vente de tickets.
Bien sûr.
Donc ça peut aller de. Ouais, c'est des centaines de milliers d'euros, ouais. Voire des millions sur certains.
Ouais. Trop bien. Et ça, tu l'es toujours, programmateur ?
Pour l'instant, je le suis toujours, ouais, parce que je suis arrivé à FIP en janvier. Je suis pas sûr que les deux puissent cohabiter, notamment en charge de travail. Mais il faut voir, enfin bon bref, à l'heure actuelle, quand je suis arrivé à FIP en janvier, la programmation de Rock en scène 2000, on est perdu sur les 22. Dates, 2022 ouais. était complètement terminée, donc je vais honorer cette édition qui est peut-être l'une des plus belles éditions de Rock en scène, j'ai bien dit l'une des plus belles depuis sa création et peut-être la plus belle moi, depuis que je suis arrivé.
Ouais.
Donc on va
termes de qualité d'artiste, c'est quoi
qualité d'artiste, de vente de billets.
Il y a une envie de fédérer, enfin en tout cas de.
Ouais,
de
puis on est tombé sur une bonne année. On a bien travaillé depuis un an et demi avec mon partenaire.
C'est quoi les headlines là
Nick Cave, Kraftwerk, Stromae, Tame Impala, Jamie XX. Rage Against the Machine.
Ouais.
Enfin, il y a du monde, quoi.
Du lourd.
Monde,
ouais. Ok, trop bien. Ok, on continue et on arrive chez FIP, c'est ça ? Ou comment ça se finit chez Radio Nova ? Pourquoi quitter une famille, une si belle famille ?
Eh ben, une autre rencontre.
Ouais.
Voilà, une toujours. Autre rencontre. Je me retrouve à programmer. On invente avec Emmanuel Hogg en plein Covid. Un programme sur mesure. Qui devient un prime time musical pour France 2, okay. fin août 2020, je pense. Je suis toujours perturbé, il y a des titres que j'adore qui passent depuis tout à l'heure. Là, en l'occurrence, c'est Léonie Pernet. Allez écouter l'album de Léonie Pernet, qui est une absolue splendeur.
Okay.
Avec ce morceau Tu bois, qui est fantastique. Je crois qu'il s'appelle Bois. Donc je me retrouve à... Alors voilà, un truc que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai programmé pas mal de live en télé, mais sur des petites chaînes, donc avec peu d'enjeux et de risques d'audience. Là, je me retrouve à coprogrammer un prime time pour France 2. Et donc à le coprogrammer. Donc je fais la rencontre d'une personnalité, d'une personne de la culture extrêmement importante pour la musique en France depuis des années, qui s'appelle Didier Varro, qui est directeur musical des antennes de Radio France. Et là, c'est un coup de cœur professionnel. On se retrouve à programmer tous les deux en trois mois, donc sur un été, cette émission de télé. On essaie d'imposer au maximum... d'avoir des artistes émergents, ce qui est rarement le cas en télé, avec évidemment un mélange d'artistes beaucoup plus reconnus, parce que tu sais que tu as une responsabilité d'audience à 21h sur France 2.
Ouais.
Et on s'entend hyper bien, coup de cœur professionnel, on se rend compte qu'on a exactement la même vision sur la musique, sur la nouvelle scène, sur le fait de programmer... des genres et des styles différents un même soir. Donc voilà, on fait ce show, on reste proches, amis, on échange sur la musique fréquemment. Et un jour, Didier me dit, il faut que je te présente à 2-3 personnes de cette maison, dont Dana Astier, numéro 2 de Radio France, et Sybille Veil, présidente. Mmh. Et voilà, et tout se passe bien. Et c'est un tournant dans ma vie. Ouais. On me propose un job qui est absolument irrefusable parce que il est dans ce que je considère depuis tout le temps comme certainement l'une des plus belles radios musicales au monde. Mmh. Je parle même pas de France,
ouais.
Qui est FIP. Et donc j'accepte.
Trop bien.
Voilà. Je pars avec évidemment émotion, mais surtout beaucoup de bienveillance de Nova. Tout le monde comprend hein, que je pars de Nova pour aller sur FIP. Il y a une suite tout à fait logique. Que j'ai toujours gardé, rêvé dans un coin de ma tête de bosser pour le service public.
Mmh. Oui, parce que c'est ça, c'est ouais, tout à fait, grande ouais. différence, c'est ça, c'est qu'on est ouais. sur une chaîne indépendante avec Nova.
Privé. Tu passes service public, ouais. maison de la radio, ouais. Et directeur radio. D'une des chaînes de la maison de la radio.
Donc qui appartient à l'État.
Bon, tout, à fait, ça, hein. tout à fait.
Et à tous les Français.
Enfin, surtout à tous les Français.
Ouais, c'est ça.
Surtout à tous les Français. Parce que tu dépends effectivement de l'État, mmh. mais ta chaîne est financée.
Par les impôts. Français. Ouais. Et tu dépends de qui C'est le ministère de la Culture, non? C'est quoi? Ok. Donc là, tu arrives chez FIP.
Ouais.
On te vend quoi comme projet? Parce que, déjà, peut-être pour commencer, tu dis que FIP, c'est une des meilleures radios musicales au monde. C'est quoi l'histoire de FIP? C'est né quand? Qu'est-ce qui fait que ça...
FIP est né il y a 50 ans.
Ouais.
Au départ, FIP s'appelle France Inter Paris,
ouais.
et mais uniquement à Paris. Mmh. Et FIP se crée sur un ADN qui est encore aujourd'hui extrêmement proche de ce qu'on fait. Accompagnement de la vie des Parisiens, notamment dans les embouteillages, avec une radio qui est strictement musicale. Et qui est raconté par des voix d'animatrices et des voix particulières.
Féminines.
Qui accompagnent tous les quarts d'heure, 20 minutes, par des micros assez courts, les Parisiens.
Pour leur dire quoi ?
Qui sont soit chez eux, soit en voiture.
Ouais.
Pour leur raconter qu'il y a des embouteillages, porte de Clignancourt, que le métro s'est arrêté, qu'il y a eu un accident sur la ligne 9, qu'il ne faut pas oublier. Des trucs pratiques.
Ouais.
Voilà, des trucs pratiques.
Très terre à terre. Ouais.
Ouais. Mais avec
un
petit subtilité, évidemment, avec ses voix complètement hors normes, avec un ton qui n'est pas radio, et avec un humour un peu grinçant, un peu taquin.
D'accord.
Voilà. Donc c'est ça l'histoire de FIP, qui s'est créée il y a 50 ans.
Mais il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des rebondissements. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, je crois que ça a été assez stable.
Ouais.
Et que FIP, par contre, est en progression depuis quelques années.
Ouais.
Une progression constante. Et les derniers chiffres là, d'audience que j'ai eu cette semaine le prouvent encore. Mais FIP, FIP se modernise aussi. Mmh. FIP... aujourd'hui émet dans 10 villes en France, ce qui est peu, hein. En comparaison, Nova émet dans 30 ou 32 villes okay. en France. Donc
c'est-à-dire que quand tu allumes la radio dans ta voiture, tu peux...
Il n'y a que 10 villes en France où okay. tu peux entendre FIP.
D'accord.
Mais FIP est une radio qui est en train de devenir une chaîne nationale quasiment malgré elle, parce qu'elle est très écoutée, et que son public a bien compris que si tu n'étais pas dans les 10 villes en question, c'était absolument pas grave, puisque tu peux écouter FIP partout dans le monde à partir de ton téléphone ou d'un ordinateur.
Ouais, avec une app ou avec sur le site internet.
App ou site internet.
Mais d'ailleurs, juste une petite parenthèse là-dessus, une radio web, tu as besoin de quoi comme matos pour faire une radio?
Je ne suis pas très technique, mais pas grand-chose.
N'importe qui, n'importe qui
peut faire une radio. Oui, tout à fait.
Une web radio, ok. Il y a des plateformes qui sont spécialisées là-dessus.
Oui, tout à fait.
Trop bien.
Ça t'a donné une idée?
Ah bah je vais lancer Entreprendre dans la mode 24-24. Ton projet, toi, c'est parce que t'arrives là fort, enfin t'as le poids de l'histoire sur les épaules. À un moment donné, tu vas pas révolutionner. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui te donne comme objectif tes patrons?
Bon, on a changé naturellement. Mmh. Je pense que on peut faire de FIP la radio musicale d'excellence en France, voire dans le monde. Et mmh. je le dis vraiment en toute sincérité. FIP s'est créé sur cet anti-format il y a 50 ans. C'est une radio qui ne joue que de la musique du matin au soir mmh. à hauteur de 92% par jour sur l'antenne.
C'est une commande.
Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, d'autant que FIP ne joue jamais deux fois dans la même journée le même morceau, ce qui n'existe nulle part au monde. Qu'on mélange littéralement tous les styles de musique possibles et imaginables. De la pop, de la musique électronique, du hip-hop, des musiques du monde. Mm. On a toujours un classique par heure, musique classique, du jazz, des bandes originales de films, des BO de Disney, de la folk, tout. Mm. On joue tout. On joue tout, donc FIP a une espèce d'énorme jungle musicale qui, et c'est l'autre particularité, et c'est un truc que j'évoque souvent avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Pascal Morand, qui est président de la Fédération de la mode et de la haute couture, qui est un proche, avec qui je travaille, et avec qui je vais continuer à travailler pour FIP. Donc toute cette musique, elle est programmée manuellement, artisanalement, et vraiment manuellement. J'invite tout le monde à venir à la radio voir comment les programmateurs
travaillent.
Comment les programmateurs travaillent. Les programmateurs, tous les jours, réécrivent une nouvelle histoire de leur vision de la musique par tranche de 2 heures. Ils sont 8. Ils recommencent tous les jours à zéro. Il y a zéro robot ou algorithme qui vienne les aider. C'est eux qui racontent une histoire. Donc c'est fait de manière totalement humaine. Donc c'est forcément tous les jours différent.
Pourquoi c'est important ça ? Pourquoi c'est fondamental ?
Ça n'existe plus. Mm. Ça n'existe plus. Et ça me permet d'avoir le discours évident, de dire qu'on est... alors évidemment, on vit avec notre temps, donc c'est tant mieux qu'il y ait des plateformes. FIP n'est absolument pas en concurrence avec les plateformes. FIP est une alternative aux plateformes. Quand tu vas sur une plateforme musicale, encore une fois, j'y reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Et puis au bout d'un moment, l'algorithme de la plateforme va te proposer de la musique qui généralement tourne autour de tes choix. Mmh. Donc tu peux assez vite tourner en rond. Sur FIP, tu vas être constamment surpris. Parce que tu vas entendre des morceaux que tu connais, mais tu vas surtout entendre des morceaux que tu ne connais pas et qui ne seraient peut-être jamais arrivés à toi, puisqu'aucun robot ne peut prévoir ça. Mmh. Aucun robot ne peut être remplacé par les 8 programmateurs là qui vont de 22 ans à 50 piges, qui ont tous une culture musicale monumentale, qui ont tous un caractère différent, on parle d'humain à nouveau, qui ont tous des goûts prononcés plutôt dans un genre que dans l'autre, mais qui sont capables de tout programmer. Donc l'histoire, elle est tous les jours différente sur FIP. Tous les jours différentes, et tu ne sais jamais sur quel morceau tu vas tomber le morceau d'après. Ce qui crée un truc assez addictif une fois que tu as compris FIP, parce que la première écoute de FIP, elle n'est pas forcément évidente, puisque tu n'as pas de point de repère, alors qu'on vit dans un monde aujourd'hui sur lequel tu as tes repères partout, puisque tu maîtrises en gros le contenu que tu as dans tes poches.
Mmh. Et on te push que des trucs
On te push des trucs qui sont en rapport avec ce que tu as liké, etc. Donc tu restes dans ton propre écosystème. Là, il y a un truc qui est tellement excitant de dire... Viens sur FIP, tu verras, tu vas perdre tes repères au début, parce que tu n'as peut-être jamais écouté morceau de salsa là, qu'on est en train d'entendre. Mais je te garantis que tu vas découvrir la musique. Parfois, tu vas tomber sur tes repères, mais l'idée, c'est justement de te perdre avec nous dans une balade musicale qui ne serait jamais arrivée jusqu'à toi autrement. Et ça, pour un mec qui aime la radio et la musique, c'est cadeau. C'est exceptionnel. Moi, je m'éclate. Je suis arrivé à FIP après 18 ans de Nova. Je pensais que je connaissais la musique. Laisse tomber. Programmateur, je tiens pas 10 minutes avec eux, quoi.
Ah merde.
Ben non, mais c'est merveilleux. C'est-à-dire, je redécouvre de la musique tous les jours, quoi. C'est infini. C'est infini.
Pourquoi c'est important la musique ?
C'est ce qui accompagne nos vies, non ? C'est ce qui ouvre les horizons, c'est ce qui ouvre le champ des possibles, c'est ce qui stimule la créativité.
Souvent, je pose la question, pourquoi c'est important la mode? Mais ouais.
C'est ce qui te balade. Ce qui te balade dans ta tête, dans tes jambes, c'est ce qui te fait danser. C'est des points de repère dans ta vie. Je le dis souvent, je le ressens souvent, ça, avec FIP, c'est que FIP est créatrice de souvenirs. Depuis que je suis arrivé, et même avant, il y a des morceaux que j'ai découverts sur FIP qui soit sont arrivés à un moment précis dans ma vie, t'es bien, t'es pas bien. Je me rappelle, j'ai oublié le nom du morceau parce que je le connaissais absolument pas, mais je me rappelle de la musique que j'ai entendue sur FIP. J'ai le morceau noté quelque part. Je me rappelle des trois morceaux que j'ai entendus sur FIP quand je suis monté dans ma caisse avec mes cartons en partant de Nova, quoi. À 3h du mat, ou même bien plus tard. Enfin, je m'en rappelle. FIP t'associe de la musique à des moments de ta vie ou l'inverse. La musique, c'est. Tu ne peux pas vivre sans musique. C'est impossible. Impossible.
Et alors, ça ressemble à quoi tes journées, toi, aujourd'hui? Et surtout, comment. Ça fait pratiquement 100 jours que tu es là, hein. Ça fait 4 mois.
Les fameux 100 jours.
Les fameux 100 jours. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 100 premiers jours?
J'ai appris à rencontrer, connaître. Depuis quelques temps, m'amuser avec les équipes. J'ai appris à partager la vision de mes équipes et leur partager ma vision et mon énergie et mon envie et ma vie. Ma vision, c'est ce que je viens de te dire, quoi. C'est de faire en sorte que vraiment FIP touche le plus grand monde, parce qu'on a vraiment une mission de service public qui est d'éveiller la curiosité musicale
De la population.
De l'éveiller, ça fait un peu pompeux de le dire comme ça, mais en tout cas d'ouvrir le champ des possibles, d'être vraiment une autre alternative, une autre manière d'écouter la musique sur le 105.1 si t'es à Paris, ou sur FIP.fr, parce qu'on propose autre chose.
Et comment on fait ça d'ailleurs?
Quoi?
Pour ouvrir, pour aller toucher de plus en plus de gens.
Bonne question. On va voir dans les mois qui arrivent. Mais on crée des événements à l'extérieur.
Okay. Ouais, t'es toujours dans la tactique, la technique de l'événementiel, de l'événementialisation de la radio, quoi.
D'ouvrir aussi ta radio de l'intérieur aux artistes, pour que les artistes ressentent et voient comment vit cette radio de l'intérieur, parce que c'est la meilleure manière d'en parler à l'extérieur. D'avoir une vraie proposition en termes d'image et de com sur les réseaux sociaux.
Tu vas avoir des lives, vous allez faire des lives?
Ouais, on en fait de plus en plus, depuis que je suis arrivé, on en fait deux par semaine.
Dans le studio, là?
Ouais, dans le studio,
Trop bien.
Et de faire ressentir à travers les ondes qu'on fait cette radio avec une passion immense, avec de la vie, avec du caractère, puisque nous sommes humains. Respectueux de ce contrat de service public, de cette mission qu'on a auprès des auditeurs qui effectivement financent cette radio à travers leurs impôts.
Donc il y a zéro pub et ça vient,
zéro
c'est
pub.
Que de l'argent public.
Ouais.
Vous êtes combien aujourd'hui
à FIP?
Ouais.
Je pense qu'on est 25-30, un truc comme ça.
Ouais, c'est déjà une petite PME, c'est déjà assez gros quand même.
Ouais. C'est la plus petite des radios du groupe, avec le format le plus atypique.
Ouais.
Puisqu'on ne joue que de la musique.
Ouais.
Avec toujours ces animatrices qui mettent en valeur la musique de
c'est
manière.
C'est toujours des femmes.
Ouais, c'est toujours des femmes. C'est l'historique de cette radio.
Ouais, on ne changera pas.
Je ne sais pas.
C'est un peu sexiste.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sexiste, puisque l'idée de base, elle est créée il y a 50 ans.
Ouais.
Je n'ai pas rencontré. Je doute. Non, ce n'est pas sexiste. Non, ce n'est pas sexiste. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que ça correspond vraiment à.
À notre époque.
À l'époque, je ne sais pas. Sur le papier, tu pourrais même dire non.
Parce
que la différence n'est pas aussi intéressante, je dirais plutôt oui. Est-ce que demain ou dans les années à venir, un homme, un transgenre, transsexuel, tout le monde a sa place pour moi sur les antennes, mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Les animatrices animent avec brio. L'antenne et mettre en valeur surtout la musique et le travail des programmateurs de manière exceptionnelle.
Qu'est-ce que tu feras jamais ici?
Qu'est-ce que je ferai jamais ici? Je pense que le jour où on a de la pub qui arrive tous les quarts d'heure, 20 minutes, ça deviendrait très compliqué.
Mais il y en a zéro pour l'instant.
Zéro pub.
Zéro pub.
Zéro pub.
Ouais.
Zéro.
Ok.
Zéro pub.
Trop bien.
Voilà.
On peut visiter ?
On peut visiter, bien sûr, évidemment.
On peut visiter ? Ouais.
Ouais.
Dans les dessous, on part dans les dessous de FIP ? Dans les dessous de FIP. Donc là, on est dans ton bureau quand même. Hein.
Ouais, là, on est dans mon bureau.
Qui est quand même assez grand, assez luxueux.
Luxueux, je sais pas.
Non, mais en tout cas,
il est agréable. Ouais, ouais. J'ai tout de suite ramené ma vie, mon histoire, ouais, mes vinyles, ouais, des choses bizarres, une balance, un siège qui vient de Nova, qui est le fameux siège zébré. Des choses qui viennent des puces de Saint-Ouen, parce que je suis un... ma femme est galeriste et j'adore chiner, j'adore les objets qui ont une histoire. Il y a des fringues parce que je me change beaucoup. Voilà.
Trop bien. Et deux belles enceintes pour écouter la radio toute la journée.
C'est ton métier quand même. Toute la journée, hein. Des enceintes, des vinyles, évidemment.
Of course.
Ce qui est fou, là, t'as un premier piano, il y a deux pianos dans cette radio.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a assez peu de programmateurs, parce que c'est vendredi.
C'est RTT. Ouais,
non, c'est même pas RTT, je pense qu'ils bossent de chez eux. Ils sont pas encore arrivés, hein, il est tôt.
Vous êtes ouvert au télétravail.
8h du mat.
Ouais.
Donc t'as ce formidable... architecture à 360, t'as pas mal de roses parce que c'est le code couleur de FIP.
Ouais. On est dans le
t'as
bâtiment.
Susanna qui est en direct. Ouais.
On est dans le bâtiment de Radio France là.
On est dans une annexe du bâtiment de Radio France.
D'accord.
T'as un premier studio. Mmh. Là, t'as Jeanne Villenay qui va prendre son antenne dans 8 minutes. On enregistre un podcast, Jeanne, ouais, qui devait traiter de la mode mais qui évidemment traite de radio et de musique.
Un podcast, ouais. Ouais, c'est un podcast. Ouais, ça s'appelle Entreprendre dans la mode. Ça s'appelle Entreprendre dans la mode, mais aujourd'hui,
je te présente Adrien. Et effectivement, on n'a jamais parlé. On a très peu parlé de mode depuis tout à l'heure. On parle que de radio et de musique.
Mais non, mais c'est à la mode de chez nous, quoi.
Ouais, exactement.
Ça, on a planté nos choux. Ouais.
Exactement. Donc, tu as ce formidable studio.
Ouais, dans lequel on fait des lives alors.
Lequel on fait beaucoup de live. Tu as une batterie, un formidable demi-queue, piano, il y a une boule à facettes.
Mais vous avez du gros matos quand même. Hein,
bah c'est normal.
Non, mais ce que tu me disais
tout
à l'heure.
Bien sûr, on fait de la musique, de la radio. On est équipé.
Ouais.
On est équipé à la mesure de notre passion.
Non, mais c'est loin de l'artisanat quand on est sur un truc avec des moyens.
On est sur un truc qui reste humain et cool.
D'accord.
une autre partie du studio qui contrôle celui-là.
Ok.
Tu vois, on passe dans une affiche de FIP qui date d'il y a 10 ans.
Ouais.
Vous n'êtes plus là, vous êtes sur FIP, ce qui était le claim de l'époque.
Mmh. C'est quoi aujourd'hui le claim ?
Il y en a plusieurs. Le principal, c'est All You Need Is FIP, un dérivé d'une chanson quelque peu connue.
Ouais.
Et là, j'ai rajouté en dessous de notre site en signature, on l'a rajouté il y a 2 semaines avec Nathalie,
ouais,
qui est formidable directrice com de FIP. FIP, premier site de rencontre musicale.
Très bien.
Je trouvais ça assez drôle.
De ouf.
Puisqu'effectivement, toutes les musiques se rencontrent
comme sur des sites...
De rencontres.
De rencontres, où je n'ai jamais été, peut-être si, quand j'avais 17 ans. Mmh.
Trop bien. Toi, après, pour revenir sur tes rêves, alors tu viens d'arriver dans une nouvelle radio, donc t'es pas prêt d'en partir, j'imagine.
Ah non. Non, je suis déjà complètement transi d'amour pour cette radio,
ouais,
qui a un caractère, une humanité... Une folie, cette radio elle est passionnante, elle est très attachante, donc écoute j'espère, c'est le service public, t'as moins de marge de manœuvre, en tout cas j'espère rester longtemps et m'inscrire dans la durée ici évidemment, parce que je pense qu'on a une formidable suite d'histoires à raconter.
Très bien.
Voilà.
Dans tout ton parcours là, qu'est-ce que tu ferais différemment toi ? T'as eu ta meilleure vie ?
Non, quelle meilleure ? Je sais pas, j'ai une vie. Attends,
ouais.
Je suis superstitieux, attention. Non, je changerais rien, franchement.
Ouais, ouais.
Non, parce que tout s'est fait de manière extrêmement naturelle. Que c'est un putain de luxe de se lever le matin, avec joie, bonheur, envie pour aller bosser. Et que c'est un immense luxe que mes enfants voient ça. Voient aussi bien leur mère que leur père être heureux de ce qu'ils font, être passionnés, et avoir une responsabilité par rapport au public, aux auditeurs, aux artistes, parce qu'on a un rôle de mettre en avant les artistes, de voir éclore des artistes qu'on a peut-être poussé à un moment.
Mais quel est le rôle d'une radio dans la carrière d'un artiste? C'est vraiment
c'est de le faire
prépondérant.
C'est encore prépondérant, évidemment. C'est
il y a une dimension.
Je pense pas m'avancer en disant qu'un artiste est immensément fier quand il sait, quand il entend son morceau passer à la radio. C'est l'attachement entre les artistes musicaux et la radio, il est viscéral. C'est un aboutissement. C'est-à-dire que ton morceau, il est validé par des programmateurs qui ont envie eux-mêmes de le faire découvrir à un public. T'as un rôle de connexionneur, qui est un mot qui avait été inventé par un mec qui est derrière moi, qui est mon mentor, qui est Rémi Kolpakopoul. Que j'ai rencontré à Nova. Donc on a un rôle de connexionneur, donc de créer des connexions entre les artistes et le public. Majeur.
Je sais pas si tu veux rentrer dans cette question là, mais j'ai encore pas mal de questions.
C'est vrai. Ouais. C'est 2 heures qu'on est ensemble.
Ouais, mais j'ai encore 2-3 questions.
Je passe un très bon moment. Hein.
Ouais, moi aussi. Est-ce que t'es heureux dans notre époque? Est-ce que t'aimes notre époque?
Je me pose pas trop de questions.
Mais il y a un côté. En fait, t'as vécu tellement des années de ouf.
Oui, évidemment.
Il y a un côté où on est quand même dans une époque un peu.
Mais c'est pas grave, ça se réinvente, ça se réinventera. Tu peux trouver ça, comme je te l'ai dit, même s'il faut un peu plus chercher qu'auparavant, tu peux trouver une contre-culture ailleurs. Et puis tu vois des choses que t'as vues il y a 20 ans, 25 ans renaître sous d'autres formes, et ça c'est valable dans la mode, dans la musique, dans la manière de faire la fête, qui pour moi les clubs, en tout cas les lieux de nuit, sont les points de connexion majeurs entre la mode et la musique. Donc non, les époques elles évoluent, les gens se réapproprient.
T'es pas nostalgique?
Surtout pas. Pas de regrets, pas de nostalgie.
Le business de la musique, parce qu'on est quand même sur un podcast qui s'appelle Entreprendre, aujourd'hui comment il a évolué, enfin est-ce que c'est plus simple, moins simple, enfin qu'est-ce qui a changé quand t'es artiste aujourd'hui et que tu veux vivre de la musique?
Tu vends beaucoup moins de disques qu'auparavant. Tu gagnes pas encore ta vie, sauf pour évidemment certains artistes, et sauf peut-être pour une frange musicale aujourd'hui qui est le rap français. C'est intéressant que c'est un juste retour du destin. Tu gagnes pas ta vie encore avec les plateformes, qui rétribuent de manière extrêmement basse les écoutes pour les artistes. Donc il faut être présent sur tous les terrains, à savoir la vente du disque, CD s'il en reste encore un peu, et vinyle. L'additionner à tes écoutes sur les plateformes, je parle de manière générale, plateforme musicale plus YouTube, etc. Les concerts comptent énormément, savoir défendre ta musique sur scène. Je pense que c'est beaucoup plus dur qu'auparavant. Et c'est en ça que les radios ont aujourd'hui un rôle qui est toujours aussi important, c'est d'accompagner les artistes, de les aider le plus loin possible à émerger.
Et c'est ce qui est contradictoire aussi aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme dans la mode, où ça n'a jamais été aussi simple de créer une marque de mode, mais ça n'a jamais été aussi dur de durer en fait, parce que c'est facile à produire finalement la musique aujourd'hui.
Il y a beaucoup de choses éphémères, tout à fait. Et que le public est à mon avis super aussi versatile et tellement sollicité aussi que en tout cas pour la musique, le public est ultra sollicité dans ses possibilités d'écoute et de la musique qui arrive jusqu'à eux, donc c'est encore plus dur qu'auparavant d'émerger et de tenir. C'est quand même la clé, quoi.
Dans les petits jeunes là, qui nous écoutent, il y a sans doute des gens qui aimeraient avoir la même carrière que toi. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Il faut commencer par quoi?
Être passionné, l'audace. Et être passionné. Vivre.
T'interpeller dans la rue et.
Ouais, bien sûr, évidemment. Alors ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours. Ouais. Ça marche toujours. Faut savoir doser, hein, attention, entre le...
L'harcèlement
faut
et
faut savoir
le...
doser, exactement. Le 3 mails dans la journée, est-ce que t'as bien reçu mon mail, marche pas.
Ouais.
L'audace, ça fonctionne. Ouais. Se battre pour trouver une place où tu te sens bien.
Mmh. Voilà. Trop bien. Écoute, on a fait un grand tour. Est-ce que tu penses qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que t'aurais voulu aborder un peu plus en détail?
Toujours des sujets qu'on n'a pas abordés.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu mettre en avant plus davantage?
On n'a pas parlé du pulp.
Ouais.
Que tu n'as pas connu.
Non.
Ouais, on n'a pas parlé du pulp, qui, je le disais il y a quelques secondes, sur l'importance des lieux de nuit, de fête, dans la rencontre et donc dans la création entre la mode et la musique. Et l'état d'esprit, donc la culture. Et moi, le pulp a un peu révolutionné ma vie.
C'était quoi alors le pulp?
Le pulp, un club lesbien,
ouais.
Rue des Grands Boulevards, à 300 mètres du Rex, sur le même trottoir, qui a été repris dans sa programmation sur les mercredis, jeudis et vendredis par une bande de fous furieux, dont Fanny, que j'embrasse très fort, qui a monté un label associé derrière qui s'appelait Kill the DJ, qui cette même Fanny a commencé sa carrière à Nova. Et le pulp était le lieu de rendez-vous de la mode, de la musique, des freaks, dans un tout petit club de 300 personnes, très bas de plafond, sans carré VIP, je pense sans clim, parce qu'il faisait toujours 55 degrés, où tout le monde était mélangé. Tout le monde était mélangé. Tu pouvais te retrouver à boire des coups... évidemment avec des inconnus, des quepons, des gens qui viennent de la marche, quoi, ce que j'appelle des frics. Les frics sont hyper importants pour la contre-culture. Et trois minutes après, trinquer avec Rachida, Agnès B, je sais pas, Grace Jones, etc. Tout ça dans un club minuscule, tenu par des femmes. Et qui évidemment était ultra mélangé, quoi. Ces soirées-là, il restait des soirées uniquement autorisées aux femmes. Et le mercredi, jeudi, de mémoire, pas le vendredi, mais j'allais quand même un peu le vendredi, était ouvert à toute personne de bon esprit. Ouverte à toute personne de bon esprit.
Trop bien.
Donc tu pouvais être aussi une star et ne pas rentrer au pulp, c'est ça qui était intéressant.
C'était avant tout le bon esprit.
Ouais, pulp. Ouais, ouais. Bon esprit, c'est un peu déjanté. Hein.
Mais ça, c'est pulp, c'est quelles années? C'est les années 2000
Ouais, 2000, 2005.
Ouais, c'est un peu le bain douche de ta génération.
Ouais, tout à fait, ouais. En plus crade.
En plus crade. Ouais. En plus crade, ok.
Ce qui était intéressant.
Ouais. Ouais. Trop bien. Cool. Question que j'aime bien poser, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast pour transmettre le relais?
Ah, Pascal Morand.
Pascal Morand.
Ah ouais.
C'est vrai que je l'ai toujours pas fait, Pascal.
Ah, ça va être fantastique.
Ouais. Tu lui poserais quoi comme question à Pascal?
On adore parler de musique avec Pascal. Je vais faire une question très bateau, mais que je trouve toujours très intéressante. Et qui est vraiment un piège, je déteste qu'on me la pose. Donc c'est complètement con, mais c'est pas grave. Quel est ton disque de chevet, Pascal? Et je t'embrasse très fort.
Ok, on lui transmettra le message. Ça marche. Merci infiniment pour ton temps.
Avec plaisir.
Et good luck pour ce nouveau job.
Merci beaucoup, Adrien.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.